Voici une question dont la réponse nous aidera à voir à quel point Dieu nous aime. Quelle est la différence entre le pardon humain et le pardon divin? Le grand livre de Dieu va nous donner une réponse qui vient du cœur de Dieu, aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone sans frais au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Mes amis, je m'attends réellement à recevoir un enseignement bien profond au cours de cette émission. Je pense que vous serez d'accord avec moi en entendant les questions qu'on va poser au Seigneur. Les voici. Est-ce que la parole de Dieu nous rapporte des faits historiques? Est-ce qu'il y a d'autres moyens que Jésus pour ôter le péché? Que signifie le mot « rédemption »? Combien coûte notre rédemption? Quelle est la différence entre le pardon humain et le pardon divin? Puisque Dieu est juste, comment se fait-il qu'il peut pardonner nos péchés? Comment devons-nous démontrer notre amour envers le Seigneur Jésus? Qu'est-ce qu'un mystère, selon les Saintes Écritures? Restez à l'écoute. La parole de Dieu va nous donner une réponse pour chacune de nos questions par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, allons ensemble dans la présence de Dieu. Prions. Seigneur, c'est tellement bon de goûter à ta présence. On sait que tu es présent, mais on veut goûter que tu es présent. Parle à nos cœurs, touche nos cœurs, fais vibrer nos cœurs par ta parole aujourd'hui. Enseigne-nous des choses profondes et cachées qu'on n'a jamais entendues auparavant. Parle-nous, Seigneur, instruis-nous par ta belle parole. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que Dieu a fait trois choses pour nous en planifiant son Église. Premièrement, il nous a choisis en Christ Jésus. Deuxièmement, il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et troisièmement, il nous accepte dans son Fils bien-aimé. Nous avons souligné le fait que Dieu ne nous sauve pas parce que nous sommes bons, mais parce qu'il est miséricordieux. Ceux qui seront perdus auront choisi de l'être en rejetant la grâce de Dieu. La prédestination s'applique aux personnes sauvées. Elles sont prédestinées à l'adoption, à la justification et à la glorification. La prédestination nous garantit que notre Sauveur nous conduira au ciel. L'adoption suppose que nous sommes régénérés et que nous avons reçu l'Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Chers amis, débutons notre lecture. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis en Christ Jésus. Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption et il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Maintenant, nous passons de l'éternité à notre histoire temporelle alors que les plans de Dieu sont remis entre les mains de son Fils, Jésus-Christ, qui intervient dans l'histoire afin de construire son Église. Ce que la Bible enseigne au sujet de Jésus sont des faits historiques. La naissance de Jésus-Christ, il y a environ 2000 ans, est un fait historique. Le Fils de Dieu est intervenu en chair et en os dans l'histoire de l'humanité, et 33 ans plus tard, il est mort crucifié. Il fut enseveli et il est ressuscité pour monter finalement au ciel. Ce sont les faits historiques que nous rapporte la parole de Dieu. Pendant qu'il fut sur terre, le Seigneur Jésus nous racheta, et le prix de notre rédemption fut son sang versé à la croix. Cet aspect du christianisme, qui en fait en est le fondement, n'est pas populaire aujourd'hui. De nombreuses personnes veulent une belle religion qui plaît au sens esthétique de l'être humain. La croix n'est pas conforme au sens esthétique des gens, et elle ne plaît pas à l'orgueil de l'homme. Les églises libérales et quelques églises qui se disent bibliques font plutôt appel à la vieille nature de l'homme et ne parlent plus du sang de Christ versé à la croix. Cela est considéré répugnant. Aujourd'hui, on fait appel à l'orgueil de l'homme, on lui fait entendre des paroles flatteuses et on essaie de modifier les choses au prix d'efforts humains. Un jour, une riche veuve approcha Campbell Morgan, un prédicateur, et le regarda à travers ses lorgnons. Elle dit, « Docteur Morgan, je n'aime pas entendre prêcher au sujet du sang. Cela me répugne et offense mon sens de l'esthétique. » Le pasteur lui répondit, « Je suis d'accord que le sujet est répugnant, mais la seule chose vraiment répugnante au sujet de la croix est votre péché ainsi que le mien. » Mes amis, ce qui rend la croix répugnante, c'est notre péché. Sans celui-ci, il n'y aurait pas eu besoin de la crucifixion. Un nouveau pasteur avait pris la charge d'une grande église. Un couple vint le trouver et lui dit, « Nous espérons que vous ne mettrez pas trop l'accent sur le sang. Le pasteur précédent a beaucoup parlé du sang de Christ, et nous espérons que vous ne ferez pas comme lui. » Le pasteur répondit, « Soyez assurés que je ne mettrai pas trop l'accent sur le sang de Christ. » Le couple sourit et remercia le pasteur, mais ce sourire s'effaça lorsque le pasteur ajouta, « Il est impossible de trop mettre l'accent sur le sang du Seigneur Jésus. » Ce pasteur prêcha beaucoup au sujet du sang de Jésus versé à la croix. Le sujet peut répugner l'homme naturel, mais c'est au prix de ce sang que nous sommes rachetés, que nous avons la rédemption. Seul le Seigneur Jésus peut ôter nos péchés. Après que Dieu le Père eut fait les plans et devis pour son Église, le Fils vint sur terre pour faire le travail avec des mains percées par des clous. L'Ancien Testament nous enseigne l'expiation des péchés au moyen du sang d'un animal sacrifié. Mais cela ne pouvait pas ôter les péchés. Seulement le Seigneur Jésus pouvait faire cela. L'auteur de l'Épître aux Hébreux l'explique ainsi. « Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Hébreux chapitre 10, versets 6 à 13. Le Seigneur nous libère du péché en payant le rachat de notre âme. En lui, nous avons la rédemption. Le pronom « lui » réfère au bien-aimé qui est le Seigneur Jésus. Nous sommes acceptés dans le bien-aimé en Christ Jésus. L'article défini qui se trouve dans le texte grec donne une importance au mot « rédemption ». La rédemption est prioritaire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur Jésus est venu sur terre. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Matthieu chapitre 20, verset 28. Il est venu afin de nous racheter. Nous étions des esclaves du péché, et il est venu nous libérer en payant le prix du rachat de notre âme. Trois mots grecs pour décrire le concept de la rédemption. Le grec utilise trois mots pour décrire le concept de rachat ou de rédemption. Le mot grec « agorazo » signifie « acheter au marché ». Il décrit une femme qui fait le marché. Elle se choisit des légumes et des viandes, et elle paie comptant. Elle paie le prix et les articles sélectionnés lui appartiennent. L'idée du mot « agorazo » est d'acheter et d'apporter avec soi. Paul utilise ce mot dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. » Le deuxième mot grec, le mot « hexagorazo », signifie « acheté au marché des esclaves ». Mais il comprend une nuance que le mot « agorazo » ne comprend pas. Le mot « hexagorazo » a la nuance d'acheter pour son usage personnel. Le mot « agorazo » signifie « acheter », mais ce pourrait être pour le revendre ou pour une autre personne. La dame qui a acheté des légumes et de la viande pourrait la revendre avec profit au village voisin. Le mot « hexagorazo », par contre, signifie qu'elle a acheté les provisions pour son usage personnel. Ce mot est utilisé dans Galates, chapitre 3, verset 13. « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Le Seigneur Jésus nous a rachetés et nous ne serons plus jamais à vendre. Il a payé le prix et il nous réserve pour son usage personnel. Le troisième mot grec est « apoloutrosis ». Et c'est ce mot qui est utilisé ici au verset 7 que nous étudions. Il signifie « libérer en payant une rançon ». C'est ce mot qui est traduit par « délivrance » dans Luc, chapitre 21, verset 28. « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Rédemption est un mot merveilleux. Il ne signifie pas seulement acheter au marché ou acheter pour ne pas être revendu, car l'achat se fait pour un usage privé, mais il signifie aussi libérer ou délivrer après qu'un prix de rachat ait été payé. Ce dernier sens s'applique au rachat d'un esclave dans le but de le libérer. Et c'est ce mot, apolutrosis, qui traduit « rédemption » dans le verset que nous examinons. L'homme fut livré au péché et il en est esclave. Nous n'avons pas besoin de chercher loin autour de nous avant de découvrir que cela est vrai. L'homme a le cœur méchant et il est corrompu. Il ne peut que pécher, car il en est esclave du péché. Le Seigneur Jésus est venu payer le prix de notre libération. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean chapitre 8, verset 36. Le prix de notre rachat est le sang du Seigneur versé à la croix. Cette rédemption se fait par son sang. C'est le prix qu'il a payé pour notre rachat. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été racheté de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 et 19. Le sang de Christ est plus précieux que l'or et l'argent. Premièrement, il y en a peu. La rareté d'une substance la rend plus précieuse, mais ce n'est pas ce qui donne sa valeur au sang du Seigneur Jésus. Une seule goutte du sang de Jésus suffit pour racheter toute la planète, si seulement les pécheurs veulent bien mettre leur confiance en Jésus-Christ. Nous avons la rédemption par son sang, et il en est ainsi parce que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Hébreux chapitre 9, verset 22. C'est un principe de l'Ancien Testament, un principe de Dieu, et celui-ci s'applique à toute la race humaine à partir d'Adam au dernier homme sur terre. Nous avons été rachetés, non par le sang des taureaux et des boucs qui ne peuvent convenir pour le rachat de notre âme, mais par le sang précieux du Seigneur Jésus. Le pardon des péchés. Le pardon n'est pas un geste d'un Dieu indulgent qui se laisse émouvoir au détriment de sa justice et de sa sainteté. Le pardon dépend du sang versé à la croix. Le pardon demande que la peine pour nos péchés soit exécutée. La mort du Seigneur Jésus et le versement de son sang sont la fondation de notre pardon. Et sans cela, il eût été impossible. Quelle est la différence entre le pardon humain et le pardon divin? Nous devons distinguer le pardon humain du pardon divin. Ils ne sont pas identiques. Le pardon humain est fondé sur le fait qu'une peine ou une punition est méritée, mais elle n'est pas imposée. Dieu, lui, est saint et juste. Donc, le pardon divin est basé sur le fait qu'une peine ou une punition a été exécutée et que l'expiation de la faute est accomplie. Le pardon humain vient avant l'exécution de la peine. Le pardon divin est fonction de la peine exécutée. C'est dommage que le pardon humain ait rendu notre système de justice inefficace. C'est pourquoi nous vivons dans une société de plus en plus dangereuse et où le crime augmente continuellement. Il y a confusion entre le pardon humain et la justice de la loi. Les juges sont trop cléments. Ils se pensent généreux parce qu'ils sont cléments et qu'ils libèrent certains criminels. Mes amis, la justice de la loi exige une punition pour chaque violation de la loi. Un jour, un juge a dit, « Si Dieu peut pardonner, moi aussi je peux le faire. » Mais Dieu a payé la punition pour nos péchés avant de nous pardonner. Est-ce que ce juge aurait été disposé à subir la punition méritée par le criminel qu'il a libéré? Nous ne devrions jamais libérer une personne sans que sa punition soit accomplie. La peine pour nos péchés doit être exécutée avant qu'il ait pardon divin. Un Dieu juste pardonne sur la base d'une punition accomplie du respect de la loi. Le Seigneur Jésus a pris sur lui la peine méritée pour nos péchés en mourant pour nous à la croix. Il a fait cela il y a environ 2000 ans. Ce n'est pas un geste esthétique. Cela ne plaît pas à l'homme naturel qui se considère civilisé. Ce n'est pas étonnant, l'homme naturel pense que son péché n'est pas grave. Il essaie d'être sophistiqué. Il se croit poli, civilisé et intelligent. Mes amis, nous sommes des pécheurs en route pour l'enfer, et Dieu ne peut pas nous sauver tant que la peine pour nos péchés n'est pas exécutée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle a été exécutée. C'est pour cette raison que dans la parole de Dieu, le pardon et le sang versé du Seigneur Jésus vont main dans la main. Le pardon dépend du sang versé. C'est en cela que le sang du Seigneur Jésus est précieux. Je l'ai déjà dit et je le répète. Vous venez à Dieu les mains vides, en pécheur, qui ne mérite que la mort, et il vous adoptera dans sa famille. Il peut vous pardonner tous vos péchés, parce que son Fils a pris sur lui la punition que vous méritiez. C'est la seule façon que nos péchés peuvent être pardonnés. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, et il leur dit, « Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Luc chapitre 24, versets 46 et 47. Paul a dit la même chose. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Colossiens chapitre 1, verset 14. Lorsque le Seigneur Jésus a rencontré Paul sur le chemin de Damas, il lui dit d'aller vers les païens afin qu'il leur ouvre les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Actes chapitre 26, verset 18. Le sang versé du Seigneur Jésus et sa mort à la croix sont la base sur laquelle nous obtenons le pardon de nos péchés. Le mot grec traduit péché est paraptoma, et il signifie tomber à côté ou près de quelque chose. C'est ainsi que Paul décrit le premier péché dans Romains, chapitre 5, verset 15. Il utilise le même mot dans Romains, chapitre 4, verset 25, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Les offenses comprennent la liste complète de tous les péchés dont on peut accuser l'homme. Augustin a dit succinctement, le Seigneur Jésus a acheté une église corrompue pour la purifier. Il l'a acquise au prix de son sang et il a pris sur lui la punition méritée par nos fautes. Dieu est riche en grâce, selon la richesse de sa grâce. Voici une expression fort intéressante. Le texte ne dit pas tirer des richesses de sa grâce, mais selon la richesse de sa grâce. Quelle est la différence? Eh bien, on raconte que J.D.R., un milliardaire, jouait au golf en Floride, et lorsqu'il le faisait, il donnait toujours une pièce de 10 cents comme pour boire au caddie. Cela devait lui faire mal au cœur de payer un tel montant. Voyez-vous, il ne donnait pas selon ses richesses, mais à partir de ses richesses. S'il avait payé son caddie selon ses richesses, il aurait été beaucoup plus généreux. Le caddie serait probablement devenu riche. Dieu nous a rachetés selon la richesse de sa grâce. Dieu est riche en grâce et il est disposé à donner selon la richesse de sa grâce. Il a dépensé beaucoup de grâce pour moi, mais il en reste amplement pour vous tous. Dieu peut vous sauver et vous garder pour le jour du salut, et il le fait par grâce. Nous traitons de l'œuvre que Dieu le Fils accomplit pour son Église. Le travail a trois volets. Premièrement, le Seigneur nous a rachetés au prix de son sang. Deuxièmement, il a révélé le mystère de la volonté de Dieu. Et troisièmement, il nous a récompensés avec un héritage. Le chrétien sert par amour. Le Seigneur nous a rachetés, donc ne devons-nous pas le servir? Oui, mais selon la nouvelle relation que nous avons avec lui. Nous avons maintenant une relation d'amour avec notre Sauveur. Le Seigneur Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Jean chapitre 14, verset 15. Il n'a pas dit, « Parce que je vais mourir pour vous, vous devez garder mes commandements. » Il a dit, « Si vous m'aimez. » Aujourd'hui, mes amis, si vous l'aimez, il désire que vous le serviez. Si vous ne l'aimez pas, ne vous préoccupez pas de le servir. Nous parlons beaucoup d'engagement envers Jésus-Christ. Mes amis, nous avons très peu à mettre au service de Dieu. Nous devons l'aimer et le servir parce que nous l'aimons. C'est cela la motivation de notre obéissance. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Lorsque l'esclavage existait encore aux États-Unis, une anecdote illustrait la rédemption et l'amour de Dieu. Je raconte l'anecdote pour son illustration, non pour faire un énoncé politique. À l'époque de l'esclavage, une jeune noire fut mise en vente. Un propriétaire cruel et brutal désirait l'acheter. Le propriétaire participa donc à l'enchère. Chaque fois que le propriétaire faisait monter l'enchère, la jeune esclave avait peur, car la réputation de l'homme était connue. Un autre propriétaire, un homme reconnu pour sa bonté et pour le bon traitement de ses esclaves, se joignit à l'enchère, et c'est lui qui fit la plus haute offre. La fille suivit l'homme, mais il se tourna vers elle et lui dit, « Tu ne comprends pas. Je t'ai acheté pour te libérer. » Elle demeura sur place, étonnée pendant un instant. Puis, elle se jeta aux pieds du propriétaire et dit, « Alors, je vais vous servir pour toujours. » Voilà sur quelle base le Seigneur Jésus veut que nous le servions. Il nous a aimés. Il vous a aimés. Il a payé un grand prix pour le rachat de votre âme. Il s'est livré lui-même et il a versé son sang afin que vous puissiez recevoir le pardon de vos péchés. Vous aurez ce pardon si vous êtes disposé à venir au Seigneur Jésus et à l'accepter comme sauveur. Mais si quelqu'un ne veut pas le servir, alors il ne vous force pas de le servir. Mais, en réponse à son amour, il désire que vous le serviez. N'oubliez jamais que votre rédemption et le pardon de vos péchés sont selon la richesse de sa grâce. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Éphésiens chapitre 1, versets 8 à 11.
Oh, merci beaucoup, Régent. C'est tellement bon d'entendre que le croyant a une relation d'amour avec son Sauveur. Jésus a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Il a dit ça en sachant qu'il allait mourir sur la croix par amour pour nous. Et tout ce qu'il nous demande en retour, c'est de l'aimer en le servant, en lui étant fidèle. Mes amis, comment avez-vous trouvé l'exemple que Régent nous a donné pour illustrer cet amour que le croyant doit avoir envers son Sauveur. Je ne veux pas oublier cette illustration. C'est pourquoi j'aimerais vous la rappeler. Question de m'en rappeler moi-même. C'est l'histoire de la jeune noire à l'époque de l'esclavage aux États-Unis. Un homme cruel faisait monter l'enchère pour l'acheter, et un autre, reconnu pour sa bonté et pour le bon traitement des esclaves, a fait l'offre la plus élevée, et quand la jeune esclave s'est mise à le suivre, il lui a dit qu'il l'avait achetée dans le but de la libérer et qu'elle pouvait s'en aller. Mais elle s'est jetée à ses pieds en disant « Je vais vous servir pour toujours ». C'est ce qui s'est produit dans mon cœur, le jour où Jésus m'a délivré de l'esclavage du péché. Quand j'ai compris à quel prix il m'avait racheté, au prix du précieux sang de son Fils Jésus, j'ai dit « Seigneur, prends tout mon cœur ». J'étais une chanteuse populaire à l'époque, et j'ai décidé sur le champ que désormais, je ne chanterai plus pour ma gloire personnelle, mais pour la gloire de Dieu seul. Et savez-vous quoi, mes amis? Je ne l'ai jamais regretté. Parfois, des gens me disent « Oh, Caro, ça ne te manque pas le show business de temps en temps ». Et je suis très heureuse de répondre que ça ne m'a pas manqué un seul instant depuis ma conversion en 1977. Et toi, mon ami, n'aimerais-tu pas recevoir cet amour que Dieu veut te donner gratuitement? N'aimerais-tu pas être certain qu'un jour, quand tu devras quitter cette terre, tu seras certain, certaine d'aller au ciel pour passer l'éternité dans la présence de Dieu? C'est possible pour toi aussi. Mais tu dois premièrement reconnaître que, tout comme moi, tu ne mérites pas d'aller au ciel à cause du péché. L'apôtre Paul nous dit, dans son épître aux Romains, au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché. Et il ajoute au verset 24 qu'on est gratuitement justifié par la grâce de Dieu, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et dans la même épître, au chapitre 6, verset 23, il dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Oh, mon ami, repens-toi. Tu peux le faire maintenant. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Dieu de te pardonner et invite Jésus à entrer dans ton cœur. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Dis-lui que tu reconnais que tu es incapable de te sauver toi-même. Dis-lui maintenant, « Seigneur, sauve-moi ». Et il va le faire. Dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 8 et 9, Paul nous dit que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Et il ajoute qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, pour que personne se glorifie. Alors, gloire à Dieu, mon ami. Si tu prends Dieu au mot, si tu crois à ce qu'il dit dans ta parole, tu seras sauvé.
Bien oui, chers amis, nous vous offrons des cours bibliques par correspondance.
Une minute, Régent. Est-ce que c'est compliqué, ces cours-là? Parce que tu sais, moi, je suis pas très, très intellectuel.
Hein? Rien de plus facile, Caro.
Oui.
Les gens n'ont qu'à prendre la Bible qu'ils ont à la maison.
Oui.
De nous commander ces petits livrets. Et par le fait même, en quelques minutes seulement, ils auront répondu à ces simples questions.
Est-ce qu'il y a beaucoup de
par cœur? En rapport avec le texte qu'ils auront lu. Par cœur. Quasiment pas de par cœur.
Oui, c'est intéressant.
C'est juste des questions, des qui, quoi, comment, pourquoi.
Pour mieux connaître Dieu.
Approfondir le texte biblique afin qu'il puisse nous parler et même nous interpeller. Car son auteur, Dieu, est vivant.
Ah, ça, j'en suis certaine, Régent.
Et il a des choses très importantes à partager avec nous.
J'ai le goût de m'inscrire.
Voilà le but, le pourquoi nous vous offrons ces cours par correspondance, à partir de chez vous. Pour toute correspondance.
Alors, vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
En composant le 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, ou via courriel
à www.radioespoir.ca. Et aussi, on a une adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143 Charlebourg, Québec, G1G 6P2. Chers amis, au revoir.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.